Frédéric Barrère pour le journal, bonjour.
Bonjour à tous. La crise en Ukraine et le cessez-le-feu qui a volé en éclats dans l'Est, une situation qui alterne entre combats et périodes de calme. Les séparatistes pro-russes décrètent la mobilisation générale. L'armée ukrainienne annonce que l'un de ses soldats a été tué près de la frontière russe. Reportage sur place dans un instant. Et dans le même temps, en démonstration de force, Vladimir Poutine lance des exercices militaires avec des tirs de missiles balistiques et des échanges diplomatiques qui ont lieu en même temps en Allemagne. L'actualité en France, Jean-Luc Brunel, l'ancien agent de mannequin français, proche de Jeffrey Epstein, retrouvé mort, pendu dans sa cellule. La politique avec la campagne présidentielle. Éric Zemmour ce matin en Normandie pour une réunion meeting près du Mont Saint-Michel. Et nous parlerons de vacances avec la folle envie des Français de partir quelques jours. Invité de ce journal, Didier Arinaud, directeur général du cabinet Pro Tourisme. La météo, courte accalmie avant de nouvelles pluies. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 13h20, secret d'info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur l'ultra-droite qui inquiète de plus en plus les services de renseignement. Depuis 2017, plus de 50 personnes ont été mises en examen et certaines projetées de s'en prendre à l'Élysée.
Jacques Monin, secret d'info, après le journal.
France Inter.
Le scénario du pire en Ukraine. Le président américain Joe Biden s'est dit convaincu hier soir que Vladimir Poutine avait pris la décision d'envahir l'Ukraine. Ce matin, le secrétaire d'État à la Défense, Anthony Blinken, affirme que les troupes russes s'apprêtent à frapper l'Ukraine. Sur le terrain, dans l'est du pays, le cessez-le-feu n'est plus respecté. L'armée ukrainienne annonce que l'un de ses soldats a été tué aujourd'hui près de la frontière russe. Et de leur côté, les séparatistes pro-russes de la région du Donbass décrètent la mobilisation générale. Près de 40% des forces russes sont désormais en position d'attaque selon le Pentagone aux États-Unis. Dans l'est de l'Ukraine, la tension est à son comble. Thibault Lefebvre et Jérémy Thuil, nos envoyés spéciaux, près de la ligne de front où des combats intenses ont eu lieu cette nuit dans le district de Barmout, au nord de Donetsk. Leur reportage à la frontière de Mayorsk, tout près de la zone séparatiste.
C'est le calme sur ce poste frontière après la tempête de la nuit dernière et peut-être avant la tornade de demain.
Je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi on ne voit pas de soldats. Mais ils sont là, cachés dans les buissons.
Et en effet, selon Dimitri, des blindés de l'armée ukrainienne stationnent à quelques centaines de mètres. Ils observent les collines au loin tenues par les séparatistes pro-russes.
C'est quoi ça ?
On entend des tirs de Kalachnikov, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient.
Les seuls soldats visibles sont dans les shops, dans une rue boueuse perpendiculaire à la large route qui mène à Donetsk. Ils achètent des boissons et des cigarettes à Angela, la gérante du petit commerce.
Vous êtes venu au bon moment. Aujourd'hui, c'est calme. Mais hier et avant-hier, c'était affreux. Ça a pilonné pendant une quarantaine de minutes. C'est difficile pour nous. Nous sommes sous le choc.
En une demi-heure tout à l'heure, seulement deux voitures sont passées du côté séparatiste. Deux 4x4 blindés des observateurs de l'OSCE en charge de veiller au respect des accords de Minsk de 2015, largement bafoués.
Reportage à la frontière de Mayorsk de Thibault Lefebvre et Jérémy Thuil. Provocation, manipulation, violence dans l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine, de son côté, dans une démonstration de force, a lancé ce matin des exercices militaires stratégiques avec des tirs de missiles balistiques. Sur place à Moscou, Jean-Didier Revoin.
Le Kremlin affirme que ces exercices étaient prévus de longue date et qu'il en a averti ses partenaires. Mais l'inquiétude demeure en raison de la forte dégradation de la situation constatée depuis trois jours dans le Donbass, où des centaines de tirs d'artillerie ont été échangés. Dans la nuit, près de 30 000 civils du Donbass ont suivi les ordres d'évacuation des autorités. Ils se sont réfugiés dans la région de Rostov, en Russie. Ce matin, les régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk ont annoncé la mobilisation générale des hommes en état de combattre, redoutant une opération de libération imminente lancée par les forces ukrainiennes. Dans un tel contexte, le maintien de ces manœuvres russes s'apparente à une démonstration de force. La Russie démontre qu'elle ne se laisse pas intimider. qu'elle reste déterminée à trouver une solution avec les Occidentaux pour obtenir des garanties de sécurité sur son flanc occidental et qu'il faut la prendre au sérieux. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Et il est bien sûr question de ces tout derniers développements en Ukraine et en Russie. Aujourd'hui, à Munich, lors de la conférence sur la sécurité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera présent. Il doit rencontrer la vice-présidente américaine Kamala Harris. Emmanuel Macron doit lui aussi s'entretenir avec le président Zelensky. Et demain, dimanche, le chef de l'État s'entretiendra aussi avec Vladimir Poutine. Rendez-vous confirmé par le Kremlin. Bonjour Christian Chéneau.
Bonjour.
Alors l'attention est à son comble, mais la séquence diplomatique s'intensifie.
Oui, le téléphone chauffe entre les chancelleries occidentales, les consultations se multiplient. Dans ce climat tendu où tout le monde retient son souffle, les fils de la diplomatie ne sont pas pour autant rompus. Il est important de garder tous les canaux d'échange et de dialogue ouverts avec la Russie, insiste-t-on à l'Elysée, où on croit encore à la possibilité de dissuader les Russes d'envahir l'Ukraine. Un scénario catastrophe qui ferait alors basculer l'Europe dans une autre réalité géopolitique, selon les mots d'un diplomate français. En attendant, depuis Munich, où se déroule une conférence sur la sécurité, le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a fait savoir qu'il avait adressé une lettre au chef de la diplomatie russe pour le convaincre de s'engager dans un dialogue entre son organisation militaire et Moscou, tout en prévenant que la Russie aura plus d'OTAN si elle cherche à avoir moins d'OTAN à ses frontières. Message de fermeté relayé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui accuse Vladimir Poutine de vouloir réécrire les règles de l'ordre international.
Christian, chez nous. La campagne pour l'élection présidentielle est à 50 jours du premier tour. Tous les candidats enchaînent les meetings et dans la bataille à l'extrême droite, Éric Zemmour, ce matin en Normandie, est accompagné de son nouvel allié venu du Rassemblement national, Nicolas Bay. Réunion en plein air près du Mont-Saint-Michel. Éric Zemmour veut prendre l'ascendant sur ses concurrentes à droite et à l'extrême droite. Sur place, on retrouve Anne Souhaitement. Bonjour Anne.
Bonjour Frédéric.
Et il y a du monde ce matin pour cette réunion près du Mont-Saint-Michel.
Oui, alors du monde, Frédéric, mais on est quand même loin de la grande démonstration. Plusieurs centaines de personnes, peut-être 1000, les pieds dans la boue avec des drapeaux qui flottent, distribués par l'organisation. Et puis il y a, vous l'avez dit, ce cadre en fond, le Mont-Saint-Michel, 14 siècles d'histoire française, a lancé Nicolas Bay en arrivant sur scène. Sur la musique de James Bond, ça ne s'invente pas, je ne suis pas un agent double, a tenté de se justifier le tout nouveau rallye, encore porte-parole de Marine Le Pen, au début de la semaine. Ensuite, eh bien, il y a eu des images de bombardements et c'est Éric Zemmour qui est entré en scène, un discours sur la puissance de la France, grand pays devenu petit par la géographie et la démographie, a lancé le candidat, offensif contre un Emmanuel Macron, pas...
Ah, problème de liaison avec Anne Souhaitement. Est-ce qu'on vous a retrouvé, Anne, près du Mont-Saint-Michel? On vous retrouvera, Anne Souhaitement, dans les éditions de l'après-midi et de ce soir. Anne Souhaitement, merci à vous, avec Laurent Macchetti. L'ancien agent de mannequin français Jean-Luc Brunel a été retrouvé mort, pendu cette nuit dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris. Jean-Luc Brunel, mis en examen pour plusieurs viols sur mineurs, était un proche du milliardaire américain Jeffrey Epstein, également décédé, Charlotte Piret.
Jean-Luc Brunel a en effet été retrouvé pendu avec ses draps cette nuit dans sa cellule de la maison d'arrêt de la Santé. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte, comme c'est systématiquement le cas lors d'un décès en détention. Mais le suicide de l'ancien agent de mannequin de 75 ans ne fait quasiment pas de doute. Rappelons qu'il était seul en cellule dans le quartier dit des personnes vulnérables et faisait ainsi l'objet d'une surveillance particulière du fait de précédentes tentatives de suicide notamment. Ses avocats parlent ce matin d'une décision guidée non pas par la culpabilité mais par le profond sentiment d'injustice d'un homme qui n'a cessé de clamer son innocence. Interpellé en décembre 2020 à l'aéroport de Roissy, alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour Dakar, Jean-Luc Brunel avait été incarcéré une première fois, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire en novembre dernier, pour quelques jours seulement, puisqu'en décembre, la Chambre de l'instruction de Paris avait décidé de son retour en prison. Accusé de viol sur mineurs et harcèlement sexuel, Jean-Luc Brunel était le seul mis en examen dans le volet français de l'affaire Epstein. Sa mort signifie donc l'extinction de l'action publique dans ce dossier.
Voilà, et tous les éléments retraçant l'affaire Brunel à retrouver sur notre site franceinter.fr. Une envie de partir en vacances avec ce week-end des routes chargées, rouges en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque les vacanciers des trois zones de vacances scolaires vont se croiser, avec des difficultés de circulation entendues sur les axes desservant les stations de montagne du monde, par conséquent, sur l'autoroute A6 en direction du sud et des Alpes. Reportage sur une aire d'autoroute de l'Essonne avec des vacanciers qui ont le sourire, Laurine Benjebria.
Veste de ski sur le dos, lunettes de soleil sur le nez, Marie-Laure est déjà prête pour ses vacances à la montagne, organisées à la toute dernière minute.
Petit coup de blouse et on s'est dit on s'en va. On a hâte d'arriver, là je regarde les kilomètres qui défilent sur le GPS.
Direction le Jura, une destination de plus en plus prisée, surtout pour les adeptes de raquettes comme Marie-Laure.
On n'est pas des très bons skieurs, on vieillit, on a un peu de douleur et du coup, voir la neige.
Même programme pour Gabriel qui roule vers les Alpes avec son fils de 6 ans.
On a un peu la louche. On va faire un peu de raquettes, sortir. Bon, les cours sont un peu saturés, on va essayer. Sinon, on leur donnera des cours nous-mêmes.
Pour d'autres, c'est le retour des vacances. François revient d'une semaine à Caen, l'esprit bien reposé.
Bah là, de voir les amis qu'on ne voit pas depuis longtemps, quoi. Ça repose. C'est ça, les vacances. Et puis, bah, ça permet aussi aux enfants de voir autre chose, quoi.
Des enfants qu'il faut aussi occuper, car la route s'annonce très longue jusqu'à Avignon. Mais François a tout prévu.
Ils ont le portable. Et puis, bah, sinon, il y a des petits jeux. Ouais. Donc, ils jouent à la poupée, et puis ils font du dessin, et voilà.
Sans compter les bonbons et leur musique préférée, histoire de finir les vacances en beauté.
Reportage Laurine Benjebria. Et la levée, avec la levée des restrictions liées au Covid, la réouverture de certaines frontières aussi, tout cela pousse les Français à s'offrir des vacances. Les périodes de couvre-feu, de confinement et de dépassement restreint semblent désormais de bien lointains mauvais souvenirs. Les Français ont envie de partir et les réservations le prouvent. Invité de ce journal, Didier Arino, directeur général du cabinet Pro Tourisme. Bonjour Didier Arino.
Bonjour Frédéric Barrère.
Alors est-ce que selon vous, le tourisme est bien reparti à l'occasion de ces vacances de février ?
Alors, le tourisme est bien reparti avec des résultats records, notamment pour la montagne, avec à la fois une fréquentation dans les grandes stations, même si celles qui dépendent des clientèles étrangères n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant-crise. En revanche, pour les stations de moyenne montagne, celles qui dépendent des clientèles françaises, ce sont des chiffres records, avec même des difficultés pour les vacanciers de trouver des cours de ski, souvent ils sont complets, voire de trouver de la disponibilité dans les hébergements. C'est ce qui fait qu'on a une partie d'ailleurs dans le massif des Pyrénées qui choisissent d'aller côté espagnol ou côté andorran, car les stations affichent complet pour toutes ces vacances de février. Mais plus globalement, ce que l'on voit, c'est une volonté très forte de partir en vacances avec des intentions de départ qui n'ont jamais été aussi élevées depuis plus de 10 ans. Des Français qui veulent se retrouver, profiter, prendre du plaisir après 2 années anxiogènes et d'ailleurs qui le restent avec une actualité qui est plutôt sombre. Donc ils retrouvent les fondamentaux du plaisir de se retrouver ensemble, de partir en vacances, de profiter. Et on le voit d'ailleurs, les prix sont à la hausse, mais aussi le budget des Français, car ils décident véritablement de faire des vacances une priorité.
Voilà, le plaisir de partir, mais c'est aussi des vacances, vous le notez, qui coûtent plus cher. On observe une nette hausse des prix en montagne et ailleurs.
Une nette hausse des prix, notamment pour les destinations étrangères, les destinations de périproximité européennes ou du Maghreb subissent une inflation considérable du fait de l'augmentation des prix des billets d'avion. Et les compagnies low cost le sont de moins en moins avec des prix très élevés, ce qui pousse d'ailleurs nos concitoyens à choisir dans les arbitrages entre les destinations étrangères et la destination France. La France et plus particulièrement nos massifs de montagne, mais pas seulement aussi. On a une belle fréquentation et des réservations de dernière minute sur le littoral et une très bonne tenue des destinations rurales. Un opérateur comme Gîtes de France, après une année record 2021, continue sur cette lancée. Il y a le désir avec cette crise sanitaire d'aller dans des grands espaces, de profiter des activités de pleine nature. y compris en montagne, avec une nouvelle clientèle qui a découvert la montagne sans les remontées mécaniques l'an passé et qui va en montagne pour des activités de plein air, pour pratiquer aussi d'autres types d'activités, la raquette, la randonnée, les chiens de traîneau, les activités liées au bien-être ou à la remise en forme. Donc il y a un mouvement extrêmement important. Seule ombre au tableau, le tourisme urbain qui lui reste pénalisé, d'une part par la des clientèles lointaines qui ne sont pas encore revenues, voire la quasi-absence pour les clientèles asiatiques et qui pâtissent encore reprise trop légère du tourisme d'affaires et des rencontres professionnelles.
Merci beaucoup Didier Arinaud, directeur général du cabinet ProTourisme. Merci à vous et pardonnez-nous pour cette liaison un peu hachée. Merci. La tempête Eunice continue de balayer le nord-ouest de l'Europe avec de fortes rafales de vent, notamment sur les côtes allemandes. La tempête a fait au moins 13 morts et dans le département du nord de la France, elle a fait 8 blessés graves et des dégâts importants. À la mi-journée, 37 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais. 700 agents d'Enedis sont déployés sur le terrain sans pouvoir garantir que tous les foyers retrouveront ce soir du courant. Stéphane Lénier, directeur territorial Nord d'Enedis.
On n'a pas, hélas, de garantie à cette heure que tout le monde sera rétabli ce soir. On n'avait pas connu ce type de phénomène sur le réseau depuis plus de 30 ans. À titre de comparaison, la tempête Ciara en 2020 avait privé 20 000 foyers d'électricité sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc là, aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux de dégâts qui sont plus importants encore que ceux qu'on avait connus il y a 2 ans. Et on n'en avait pas connu comme ça depuis 30 ou 40 ans. S'ajoute à cela qu'aujourd'hui, on est toujours en vigilance vent soutenu. Donc nos équipes vont faire le maximum de travaux de réparation aujourd'hui. Il y a des moyens conséquents qui ont été mobilisés. On fait rapatrier un nombre significatif de poteaux. On va essayer également d'installer des groupes électrogènes pour essayer de rétablir les clients le plus rapidement possible lorsque les dégâts nécessiteront plusieurs jours de réparation. Mais voilà, dans les conditions encore délicates de vent soutenu, on a des difficultés pour savoir si effectivement tout le monde pourrait être établi aujourd'hui.
Stéphane Lénier, directeur d'Enedis Nord, et concernant le trafic des TER, il va reprendre doucement dans l'après-midi, mais les trains seront encore peu nombreux. Les Jeux Olympiques de Pékin avec ce matin du bobsleigh féminin qui renaît à l'occasion de ces Jeux en direct de Pékin. On retrouve Guillaume Batin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Frédéric.
C'est la première fois qu'un équipage de bobsleigh féminin français participe aux Jeux en fait.
Et c'est Margot Bock, la pilote du bobsleigh, ancienne lugeuse qui s'est lancée en première. Elle vit à La Plagne, près de la seule piste de bob en France. Elle a ça dans le sang, son père fait du bob, son grand-père aussi faisait du bob. En 2018, Margot poste un appel sur Facebook pour trouver une coéquipière. Une autre savoyarde lui répond, Carla Sénéchal. Son truc c'est plutôt l'athlétisme, mais elle aussi, elle a toujours rêvé de bobsleigh en cachette. L'aventure sportive commence entre les deux jeunes femmes et aussi une belle amitié.
C'est un sport qui est dur, le bob c'est vraiment dur physiquement, mentalement, donc ça rapproche autant de son équipe que des autres équipes aussi. Mais c'est vrai que nous on est encore plus proches, on a cette complicité qui est née dès le premier jour, donc voilà, c'est une vraie force et c'est un vrai plus.
Ouais, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a beaucoup qui ne croient pas en cette amitié parce que c'est vrai qu'on est vraiment très très fusionnel, très très proche. Et parfois on peut penser que c'est faux, je pense, d'un point de vue extérieur, mais en fait c'est tellement sincère et unique notre relation et c'est notre point fort aussi.
Et même si les résultats ne sont pas à la hauteur dans ces Jeux Olympiques, 17e sur 20 équipages hier soir après les deux premiers runs, Margot et Carla partagent cette passion de la glisse à 110 km/h sur la glace.
Merci Guillaume Batin avec Romain Lucas en direct de Pékin. Le choix culturel de ce week-end avec le retour du groupe américain Big Thief. Ce groupe de rock indépendant sort un nouvel album enregistré à la campagne pendant le confinement. Un disque qui regorge de ballades fines et douces et c'est l'un des coups de cœur du service culture de France Inter et en particulier de Mathieu Culeron.
Loin des sentiers battus, pour son 5e album, la formation originaire de Brooklyn, emmenée par Adrian Lenker et Buck Meek, a enregistré à Topanga Canyon, dans les Rocheuses, et à Tucson, dans l'Arizona. Les ballades country succèdent aux morceaux qui parlent dans le désordre de l'impact de l'homme sur son environnement, de la genèse ou encore des mystères de l'âme humaine. Ce dernier album de Big Thief se révèle une parenthèse de tranquillité et une ode au ralentissement entre trip-hop et guitare dépouillée. Ce Dragon You Warm Mountain, I Believe in You dénote par sa liberté, sa finesse et son invitation permanente à l'école buissonnière. Un dernier album d'une beauté fascinante décrivant une apocalypse acceptable, sans aucun doute le rayon musical de la semaine.
L'album de Big Sif avec Mathieu Culeron. Et puis ce rappel important pour le Livre Inter, amoureux des livres, écrivez-nous pour devenir juré du Livre Inter, présidé cette année par Delphine de Vigan. Écrivez-nous vite sur franceinter.fr ou par courrier France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Et vous avez jusqu'au 28 février. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
Ce week-end, les perturbations vont continuer à défiler sur les régions de la moitié nord avec à la clé un vent soutenu. Alors cet après-midi et ce soir, vers 100 km à l'heure près de la Manche, 80 du nord de la Loire à la Belgique et des pluies de plus en plus marquées en soirée. Dans la moitié sud, les éclaircies seront larges et le ciel souvent plus dégagé autour de la Méditerranée en raison du mistral et de la tramontane sensible. En revanche, au pied des Pyrénées, l'ambiance va rester maussade et neigeuse à moyenne altitude. Le tout dans les températures en nette baisse par rapport à hier, les maximales s'étageant généralement entre 9 et 12 degrés, 13 à 16 près de la Méditerranée. Demain, une nouvelle zone de vent fort va toucher l'après-midi toute la moitié nord, glissant le soir vers le Grand Est avec des rafales à 100 à 110 km à l'heure. En soirée, le vent va également se renforcer du Massif central à la Méditerranée, un quart sud-est qui va conserver un ciel lumineux, contrairement au reste du pays où la journée sera ponctuée de pluie avec des précipitations marquées en fin de journée du nord de la Seine à la frontière allemande.
Jean-Michel Golinski de Météo France.